Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346.
Caroline Saint-Hilaire et Antoine Robitaille sont avec nous pour parler de politique. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, monsieur Robitaille, des nouvelles de Mme Dorion dont on s'inquiétait?
Ben oui, excellente entrevue de Geneviève Lajoie du Journal de Québec. Donc, Catherine Dorion, elle a recommencé à travailler lundi, le 1er mars, mais elle n'a pas donné d'entrevue comme telle un peu partout, sauf à Geneviève. Puis elle a expliqué qu'elle reprend son boulot de députée. Mais après des moments angoissants, là, parce que son troisième enfant est né avec une malformation cardiaque, a dû être opéré à cœur ouvert. Moment très angoissant. Mm-hmm. Elle explique tout ça. Elle sent de la pression pour revenir plus rapidement à l'Assemblée nationale. Évidemment, moi, j'avais posé des questions. Je ne savais pas ce qui se passait. Et je me doutais qu'il y avait quelque chose qui se passait parce qu'habituellement, les députés reviennent beaucoup plus rapidement. En même temps, Catherine Dorion fait remarquer qu'elle a pris un an pour son premier enfant, 9 mois pour le deuxième, puis là, la troisième qui est affectée donc de ce problème cardiaque, ou en tout cas qui a eu cette opération importante. Elle va devoir juste prendre 6 mois. On sait que les députés québécois n'ont pas accès au régime québécois d'assurance parentale, comme le souligne Geneviève dans son texte, mais le sujet est souvent discuté, même que ça fait partie du plan de réforme que Simon Jolin-Barrette a déposé, là, la réforme parlementaire, mm-hmm. l'instauration d'un congé parental pour les parlementaires. Bon, mais c'est pas encore réalisé, évidemment, cette réforme-là. En même temps, il y a toujours le danger, je dirais, ou l'exigence d'assiduité qui est dans le Code d'éthique et de déontologie à l'article 6. Là, un député fait preuve de rigueur et d'assiduité. On se souvient que Tony Tomassi avait été blâmé. Il a eu quelques tapes sur les doigts parce qu'il était...
À peine.
Tu te souviens de Jacques Saint-Laurent, premier
le
commissaire à l'éthique.
Ah oui, le redoutable.
Ils ont accouché de quoi?
De quoi? De pas grand-chose.
Je faisais un parallèle avec...
Ouais, non, mais est-ce que la politique est sexiste au Québec, Caroline?
Oh, je savais que c'était à moi que tu allais lancer ça.
Ben, certain.
La politique est sexiste? Pff, en tout cas, nos institutions parlementaires, que ce soit à Québec, Ottawa, ou même au niveau municipal, c'est pas facile encore pour les femmes. Et le témoignage de Catherine Dorion est assurément un beau reflet. Puis je comprends totalement ce qu'elle a dû et ce qu'elle ressent, parce que c'est impossible pour une parlementaire de partir, même si moi, elle était bonne de faire ça, parce qu'elle a dû avoir de la pression de son entourage politique, des citoyens. Puis on avait eu la conversation à un moment donné, parce que vous vous souvenez, les messieurs, on parlait du tramway, puis on disait, mon Dieu, est où Catherine Dorion?
Est où?
Et c'est ça, exactement. Et on avait dit, ben peut-être qu'effectivement, il se passe quelque chose. Ben oui, il se passait quelque chose. Mais c'est pas facile. Est-ce que c'est sexiste? En tout cas, c'est certainement pas adapté aux réalités d'avoir des jeunes femmes en politique et même des jeunes hommes, parce que peut-être qu'une femme aurait pu avoir envie de retourner rapidement, mais peut-être qu'un parlementaire pourrait dire...
Au fédéral, il y a un pauvre député qui avait un problème, je pense, de bipolarité, en tout cas un problème de santé mentale,
député du Bloc.
Là, mm-hmm. Puis c'est la même chose. Là,
ouais.
Parce que, comme me disent souvent des députés à qui je parle, on n'a pas un emploi, on a une position. Et quand on a une position, ça vient avec certaines pressions un peu anormales.
C'est drôle. Hier, une jeune femme me disait ça, de 27 ans, qui était impliquée en politique, qui me disait la question qui revient le plus souvent chez les femmes quand il y a des conversations de politique, c'est est-ce que c'est possible d'avoir une famille? Est-ce que c'est possible d'avoir une vie de couple, une vie de famille quand tu fais de la politique? Mais je trouve la question est vraiment pertinente.
Oui, mais fatigante, parce qu'on ne pose pas cette question-là aux messieurs.
C'est clair. Écoute, ma question à l'origine, Caroline.
Oui, mais j'étais enceinte au DAP, puis tout le monde me disait qui va s'occuper de cet enfant-là. Ben, écoute, on le fait à deux, fait qu'après, on va s'en occuper à deux.
Ouais.
Mais effectivement, puis la question de la conciliation travail-famille, je veux dire, on pose pas ça aux messieurs, on la pose toujours aux femmes.
C'est clair.
Ça vient ajouter, oui, de la charge, mais bon,
il y a des bouts qu'on peut pas faire comme l'allaitement. Madame Dorion a dit qu'elle a fait une montée de lait sur le tramway. moi. Elle dit, d'ailleurs, j'y retourne. Je retourne à ça, le lait. Faut que j'allaite mon bébé. Mmh. Mais non, je pense, y a des bouts comme ça qu'on peut pas faire. Il y a encore une différence.
Catherine Dorion sera avec Vincent Dessureau, son verre.
Absolument.
Là. C'est ça, tantôt.
À 15 heures.
Bon, à 15 heures, OK. Et plaidoyer de Legault contre la violence envers les femmes.
Ben oui. Je sais que tu en as beaucoup déjà parlé à l'émission. Tu viens d'en parler longuement. Mais moi, je trouve que c'est un beau coup de sang du premier ministre.
Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui suive.
En même temps, il y avait des échos avec ce que tu disais, puisque tu réclamais depuis quelques jours. Donc, c'est pour ça que je voulais en reparler. J'étais curieux de savoir ce que tu en as pensé. Mais là, je vois que tu en as beaucoup parlé.
Non, mais il faut qu'il y ait un suivi, Caroline, là-dessus. Là, tu sais, on peut sortir, on peut déplorer puis dénoncer. Mais il faut que lundi prochain, moi, je trouve qu'il y a des hommes au Québec qui doivent se prononcer, des hommes qui ont une influence sur les autres hommes.
Ben oui, tout à fait. Puis on était tous contents d'entendre François Legault hier, mais effectivement, faut pas que on referme le livre puis on rentre à la maison jusqu'au prochain meurtre. Il faudrait déjà qu'il y ait des gens qui s'organisent. Est-ce que ça doit venir des élus? Est-ce que ça doit venir de la société civile? Tu sais, des fois, c'est plus facile quand c'est un parlementaire qui lance quelque chose. Ou à la limite, est-ce que ça pourrait pas être les quatre partis politiques qui disent, garde, on s'unit nous, quatre parlementaires, quatre messieurs ou et lançons cette grande vague.
Moi, des trucs transpartisans, j'adore ça.
Des sportifs aussi, là, des hommes.
Tout le monde.
Oui, puis qu'on prenne la parole.
Un gros show de testostérone pour parler aux messieurs.
Ben oui, parce que ça existe, la testostérone.
Vous irez voir le petit gazouillis de Monsieur Legault suite à sa déclaration, justement, les commentaires. Le monde va pas bien, messieurs, là, parce que c'est épeurant, les commentaires que François Legault reçoit par rapport à cette déclaration-là. Franchement, ça fait
pire. Quel genre?
C'est de la faute à François Legault si ça arrive, tout ça, parce qu'on est confiné, puis c'est un dictateur. Non, c'est épeurant, messieurs. Je vous dis, on part de loin.
C'est incroyable.
Content d'être pas sur Twitter, hein?
Ah non, regarde, je suis tellement soulagé. Mais ces hommes-là là, qui écrivent ça, c'est des hommes en liberté, là. Des hommes qui ont le droit de voter.
Je ne sais pas si c'est des hommes, parce que souvent, c'est des têtes d'œufs que je vois, là. Je ne sais pas si c'est un homme, une femme ou un peu.
Des têtes d'œufs, hein? Je pense que ça résume bien la situation, des têtes d'œufs. le ministre de la Défense, Caroline, qui avait été prévenu des allégations d'harcèlement sexuel à l'endroit de Jonathan Vance.
Ben oui, écoute, on a su ça hier en comité à Ottawa de la Défense nationale. C'est quand même une petite bombette, disons ça comme ça, parce que le Parlement ne siège pas. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point l'opposition va prendre cette balle-là au bon. Mais oui, le ministre Sajjan, le ministre de la Défense nationale, aurait été prévenu par l'ancien ombudsman militaire Gary Walburn, qui a fait une déclaration hier en comité en disant qu'il avait voulu prévenir le ministre il y a 3 ans qu'il aurait des allégations à l'endroit de Jonathan Vance, qui est le grand boss des forces armées, qui a été tassé depuis, mais quand même, et semble-t-il que le ministre voulait même pas entendre les preuves, voulait même pas voir les preuves, alors qu'il avait dit quand il a comparu en comité au mois de février que c'était faux, il a dit en comité qu'il avait appris en même temps que tout le monde, en regardant les nouvelles, qu'il y avait des allégations. Alors, qui dit vrai, qui dit faux, deux versions. Monsieur Trudeau a réitéré sa confiance au ministre Sajjan.
Sajjan qui parle pas français, donc tous les médias québécois n'ont pas accès à ce ministre-là. Des fois, faut le souligner.
Ben, tout à fait, mais bon, c'est comme
parce
ça.
Moi, j'aurais aimé ça l'avoir en entrevue, parce que je me trompe-tu ou c'est Art MacDonald qui l'a remplacé, Jonathan Vance, puis il y a aussi des allégations contre lui?
Puis lui aussi a été tassé, fait que c'est ça, changez de côté, vous êtes trompé.
Ben oui.
Mais c'est la culture comme ça aux forces armées.
Écoute, c'est ça, des poignées de cul, c'est quoi, là? Mais c'est quoi la culture militaire, là? Femme rentrer dans un militaire, tu dis, hey, moi, il pogne le cul, moi, l'écœuré jusqu'à temps que. Non, mais, et puis là, le ministre, lui, il répond de rien. Lui, il est là, la bouche ouverte, là, dans les médias, puis il dit, bah.
Puis écoute, moi ça me fait peur parce que j'étais députée fédérale puis j'avais eu la conversation avec Mario Dumont il y a quelque temps. Écoute, il y a 25 ans, ça nous rajeunit pas là. Ah. Et je posais des questions du haut de mes 28 ans. Je posais des questions au Parlement à Ottawa sur des allégations de viol, de culture du viol dans les forces armées. Puis tout le monde me disait « Tolérance zéro, c'est terminé! »
Ouais.
Ça fait 25 ans.
Il faudrait aller chercher ces extraits-là.
Ouais.
J'aime ça, les extraits historiques.
On a fait des entrevues.
Historique, Antoine Robitaille.
Historique, 25 ans. Classic rock.
Tu me sacrifier patrimoine?
Ouais.
Non, patrimoine immatériel.
Mais le nombre de femmes qui sont sorties, là, qui ont pris la parole, qui ont dénoncé le harcèlement, les agressions sexuelles dans l'armée, les forces armées canadiennes. Et c'est vrai qu'on promettait des réformes. Puis on se rend compte.
Tu te souviens qu'Alec Castonguay, notre collègue, avait fait tout un bouquin avec son enquête.
Avec Noémie Mercier.
Avec Noémie Mercier, oui.
Puis il avait fait un bon travail.
Ça change, c'est pareil.
Bon, et les conservateurs là, qui échappent plus le ballon, ils courent même pas sur le terrain.
Ben non, où est Charlie, où est Richard Martel, où est le lieutenant du Québec? J'écoute, je trouve, bon, tu vas me dire que c'est la relâche, peut-être que les parlementaires sont en relâche, mais au-delà de ça, ça fait longtemps, il est pas là, il est pas nulle part. Et là, cette semaine, on apprend que les conservateurs, en fait, ont voté contre le rapport d'impôt unique, et là, écoute, ils se mélangent dans ces explications justifiant le fait qu'il n'a pas voulu accepter le projet de loi du Bloc québécois pour que le Québec ait son rapport d'impôt unique. Tout d'un coup, les conservateurs sont très sensibles au fait qu'il faut sauver des emplois. Or, le NPD, au départ était contre, finalement, ont approuvé ce projet de loi-là.
Puis dans le projet de loi de Gabrielle Sainte-Marie, il y a des éléments pour conserver les emplois.
Exactement.
Non, mais attendez, vous me faites rire, vous autres. Pensez-vous que la fonction publique, que ce soit fédérale ou provinciale, tu perds des emplois? T'es transféré, tu passes d'une tablette à une autre. Il y a personne qui perd d'emploi dans la fonction publique. Jamais, ever, fucking ever. Fait qu'arrêtez-moi avec cet argument-là.
Non, mais je ne fais que rapporter les propos.
Non, mais je voyais que la NPD qui braillait sur ça. Puis là, c'est les conservateurs qui répètent les mêmes sottises.
Il y a tout l'aspect aussi. J'ai interviewé Gabrielle Sainte-Marie pour La Haut sur la colline hier. Puis, tu sais, il y a tout l'aspect de la lutte aux paradis fiscaux aussi. Et parce que on dit si le Québec a un accès plus direct à la perception, à la captation des impôts, il va peut-être avoir plus tendance à combattre l'évasion fiscale. C'est intéressant
Martin
dérangeait les conservateurs parce qu'ils disaient que le Québec se prend pour un pays.
C'est ça qui n'aimait pas les conservateurs. Alors, bravo pour l'autonomie et la reconnaissance, la spécificité du Québec. Ouais. Bravo les conservateurs, les championnats.
Non, mais j'aime ça, cette chronique-là, mine de rien, là, c'est parce que, rappelez-vous les promesses de Justin Trudeau en 2015-2016 face aux paradis fiscaux?
On va continuer.
C'était pas la même que la réforme sur le mode du scrutin. C'était pas dans la même liste.
Les arbres. Les 2 milliards d'arbres, c'est dans les mêmes.
Qu'est-ce qu'il avait dit Trudeau en 2015? Je me souviens.
Non, mais on parlait des paradis fiscaux, puis il disait qu'il allait avoir un effort de l'Agence du revenu du Canada à identifier. Puis là, il avait identifié un nombre X de Québécois puis un nombre X de Canadiens qui avaient de l'argent dans des paradis fiscaux, et on était censé aller chercher tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé depuis? Zéro puis une part. Fait qu'il y a rien. Parlez-en à Marois Risky, elle va vous en péter une en direct. Et ça sera pas long. Fait que, bref, écoute. Avez-vous autre chose à ajouter?
Ben, ça va être correct.
C'est beau pour aujourd'hui?
Moi, j'ai juste une affaire, c'est au revoir.
Ah, parfait. Merci. Antoine, Caroline, à demain.
À demain.